Bienvenue à Radio Renard, le podcast pour créer du mouvement dans sa vie. Chez Renard, on aime repenser la vie active et essayer toutes sortes d'idées pour améliorer le quotidien. Je m'appelle Marc-Claude Lasserte. Chaque semaine, découvrez avec nos invités tout ce qui est possible de faire pour bouger à votre façon. Bonne écoute! Bonjour Karel, merci d'être avec nous. On rit parce que j'expliquais que ça m'arrive souvent de jaser comme une demi-heure avec les invités avant, puis là, il y a plein de bonnes réponses, puis là, j'aurais voulu tout capter, ou des fois, genre, on parle juste trop, puis t'as pas enregistré. Fait que là, on a parti les caméras, et on commence.
C'est parti.
Donc, tu es ébéniste et fondateur des Gaspilleurs.
Oui.
C'est un collectif de réparateurs, vous donnez une deuxième vie à des meubles, qui soient endommagés ou des fois abandonnés sur le bord d'une rue. Vous en avez sauvé quelques-uns. fait qu'aujourd'hui, on va parler de travailler avec ses mains.
Super.
Puis aussi le lien avec l'environnement. Parce que je trouve ça important de montrer que le mouvement a un impact sur ce qui nous entoure et sur notre vie quotidienne.
C'est en plein pour ça qu'on le fait. Donc...
oui. Hein? T'es programmeur à la base, fait, qu'est-ce qui t'a amené vers l'ébénisterie?
J'ai programmé pendant vraiment de nombreuses années, environ 15 ans. Je suis très content d'avoir fait ça dans ma vie, mais à travers les années, j'ai commencé à me lasser d'être devant un écran toute la journée. Puis à environ peut-être 8 ans, j'ai commencé à vouloir travailler avec mes mains et puis faire autre chose. J'ai toujours été assez manuel. Quand j'étais petit, je me rappelle de faire beaucoup de peinture avec des petites figurines ou des choses comme ça, des maquettes. Donc j'ai décidé, j'avais un appartement à Montréal, puis je voulais me faire un bac à plantes, puis je trouvais rien qui fonctionnait. J'ai acheté une scie sauteuse au Home Depot, puis je me suis juste lancé, j'ai récupéré des palettes à l'arrière du Home Depot aussi. Je leur ai demandé, est-ce que je peux récupérer vos vieilles palettes? Ils m'ont dit oui. Puis je me suis juste lancé dans la construction. Ce qui n'est pas une bonne idée, soit dit en passant, d'utiliser du bois de palette pour un bac à plantes, parce que souvent le bois est traité. Mais bon, ça, je ne savais pas.
Ça l'a-tu affecté tes plantes?
Non.
OK.
Mais ça
aurait pu. Il est traité avec quel genre de...
C'est quoi le produit? C'est pour éviter qu'il y ait des bibites qui viennent gruger le bois, etc. Donc souvent, il y a quand même des produits chimiques qui sont mis par-dessus le bois. Donc quand c'est pour des bacs à plantes, surtout si c'est des plantes comestibles, ce n'est pas une très bonne idée.
OK.
Puis c'est pas non plus une très bonne idée de faire des bacs à plantes dans ton salon.
OK. Je pensais que t'allais dire de faire des bases de lit en palette, parce que aussi c'est populaire, mais c'est pas manier. Fait que pas dans le salon.
Salon, il y avait de la poussière partout. Puis, ouais. Donc assez rapidement, j'ai adoré le processus de fabriquer ça, de tout, aller chercher le bois, le récupérer, le démonter, le couper, faire les plans. Mais j'étais dans un petit studio... Donc, c'était vraiment pas un gros appartement. J'étais comme dans ma seule pièce.
Ma soeur, elle a eu la ruse. Elle fait ça dans le garage à mon père en place. Fait qu'elle s'en va disperser son... Elle travaille dans le Vieux-Port, puis il y a beaucoup de bois des 2x4. Mm-hmm. Puis elle a commencé à en récupérer. C'est ça, le bois qui est utilisé dans son travail. Puis là, elle fait des meubles avec ça, mais... C'est ça, c'est dit qu'elle va pas chez elle. Fait que c'est une bonne première expérience.
Ouais, c'était vraiment... J'ai adoré l'expérience, mais pas de le faire chez moi. Puis là, j'avais un ami qui venait d'acheter en fait un guidon en bois chez des artisans montréalais, qui m'a dit, écoute, là-bas, il y a un bâtiment avec plein d'ateliers, tu devrais aller voir. Juste été frappé à la porte, je leur ai demandé s'ils cherchaient quelqu'un pour sous-louer l'espace. Okay. Ils m'ont dit oui, j'avais aucune expérience. J'aurais dit que j'avais aucune expérience, mais que j'étais quand même pas tenteux, puis que j'apprenais vite. Ils ont été vraiment super patients avec moi, puis ils m'ont appris beaucoup de...
T'étais un apprenti, d'accord?
J'ai pas travaillé pour eux, j'ai vraiment loué l'espace pour faire mes projets, mais j'avais quand même beaucoup de questions, puis ils ont été très patients pour répondre à mes mille et une questions, que ce soit sur les machines, que ce soit sur les techniques, etc. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai appris, en plus des vidéos YouTube, puis des lectures, de voir comment les autres construisent. Et, donc au début, ça a été vraiment quelque chose en parallèle de l'informatique. J'y allais quand j'avais du temps à côté, les soirs, les fins de semaine. Puis j'avais quelques petits projets que je faisais pour moi principalement. Pendant de nombreuses années, je n'ai pas fait de commercial, je n'ai pas fait de contrat pour des gens. C'était vraiment plus pour apprendre, puis pour faire des choses pour moi ou pour les amis. Puis éventuellement, c'est devenu de plus en plus présent dans ma vie. J'ai commencé à faire quelques contrats. Et les deux activités se sont croisées en fait, pendant qu'une prenait de moins en moins de place, l'autre en prenait de plus en plus. Et la création en tant que telle était très plaisante, mais j'ai réalisé que dans le processus de création, il y a beaucoup de temps qui était passé sur un ordinateur au final.
Même avec les mini-séries.
Ouais, il y avait beaucoup de faire les plans, faire de la conception 3D, faire de la recherche, etc. Et c'est une amie qui m'a demandé de réparer un meuble la première fois. Elle avait un très beau meuble qu'elle avait ramassé dans la rue en tech. Vraiment magnifique. Je ne sais pas pourquoi les gens avaient jeté ça. C'était... Mais il y avait une des traverses qui était brisée. Donc, elle me l'a donnée. Puis j'ai fait toute la... J'ai adoré la recherche de trouver l'essence de bois, le morceau qui allait fonctionner vraiment bien, de le travailler, de le tailler, de respecter les techniques originales. Et en fait, ce qui s'est passé sur ce projet-ci, c'est que j'ai réalisé à quel point le fait d'avoir des contraintes dans le processus créatif était extrêmement plaisant pour moi. En fait, il y avait beaucoup plus de créativité pour moi dans les contraintes que quand j'arrive sur une feuille blanche et puis que je dois dessiner un meuble au complet.
Que tu as trouvé le sens du meuble ou le...
Exactement.
À partir de rien. Ou...
Et puis, je peux commencer à travailler dans la matière directement. Quand j'ai un meuble devant moi... Je regarde le meuble, puis c'est le meuble a toute son histoire. Il a une manière avec laquelle il a été fabriqué. Il y a des techniques. On voit même les réparations des personnes qui sont passées avant nous. Donc on travaille avec toutes ces contraintes-là. On peut pas juste arriver et faire n'importe quoi. On peut pas prendre une table et la transformer en fauteuil. Ça marche pas. Il y a quand même. Puis on peut encore.
Mais ça sera plus la table. Ouais.
Et souvent sur les meubles comme des commodes par exemple aussi, il y a comme il y a toute une structure, mais des fois, par exemple, un tiroir est brisé, puis on ne va pas le remplacer, mais on va essayer de trouver, on peut faire des étagères. Des fois, on peut prendre des commodes et les transformer en meubles à vanité. Ce n'est pas l'essentiel de ce qu'on fait, la transformation. Souvent, on garde l'usage premier du meuble, mais ça arrive aussi. Donc, c'est vraiment cette relation avec un objet qui est déjà existant, puis qui a déjà quelque chose à raconter, qui m'a vraiment beaucoup plus que je pensais. Donc, la réparation est passée de quelque chose que je trouvais peut-être très plate à quelque chose que j'ai trouvé absolument génial et que j'ai voulu reproduire, du coup, de plus en plus. Donc, ça a commencé comme ça. Ouais, c'est les prémices du projet, qui n'était pas encore un projet rendu là.
Je trouve ça fascinant. On dirait que tu me fais réaliser comment j'aurais pas pensé que créer un meuble nouveau, ça, comme tu dis, la première étape, ça va être d'être devant un écran, tandis que là, il y a une interaction entre quelque chose qui existe déjà puis une histoire, comme tu dis. T'as sauvé aussi des meubles sur le bord des rues. Est-ce que c'est difficile maintenant, parce que tu dois les remarquer de plus en plus, est-ce que c'est difficile de dire « OK, non, je peux pas t'amener avec moi
» Ça a été très difficile au début. Je dirais que les 3-6 premiers mois, ça a été vraiment très difficile. Je voyais tous les meubles, j'avais envie de tous les sauver. On a loué un entrepôt pour faire du stockage. Tellement c'était comme important pour nous d'essayer de les sauver, mais on n'avait pas la capacité de tout réparer. Puis au bout d'un moment, en fait, on pourrait juste entreposer, empiler des meubles. Je crois qu'ils ont estimé à 10 millions de meubles par année au Canada. Donc, ce n'est pas juste Montréal, mais au Canada, qui sont jetés.
C'est fascinant.
Donc, c'est beaucoup de meubles. On connaît tout ça à Montréal, en marchant dans les rues, dès le printemps, de voir la quantité de meubles qui partent aux poubelles.
Surtout, comme tu dis, qu'il y en a qui sont légèrement abîmés ou des fois pas abîmés du tout.
Souvent, pas du tout, en fait.
Ouais.
Il y a beaucoup de meubles, comme toutes les meubles IKEA, qui sont juste un peu dévissés ou où il manque juste une pièce, puis les gens le mettent à la rue, alors que c'est des meubles qui sont assez faciles à réparer et qui pourraient servir encore... quelques années.
J'ai l'impression qu'avec toute la prise de conscience sur l'impact sur l'environnement, que les gens vont être de plus en plus sensibles à ça, là, puis on questionne déjà nos modes de consommation. Est-ce que toi, tu sens qu'il y a un engouement de plus en plus grand pour ton travail?
Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'on est on est sur une vague. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans le réemploi, dans l'économie circulaire, dans comment est-ce qu'on peut réutiliser ce qu'on possède déjà. Puis il y a vraiment une grosse, grosse vague. Je pense que ce n'est pas encore arrivé dans la conscience collective de manière massive, mais ça s'en vient. C'est comme moi, j'aime voir ça comme une grosse vague de tsunami.
Ouais.
Nous, on est dans la vague de tsunami, donc on sait ce qui se passe. Ouais. Mais c'est comme ça arrive, et puis comme tout le monde va prendre conscience à un moment donné que comme c'est une manière de consommer qui est viable.
Mmh.
Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de... C'est probablement une des positions qu'on va essayer de développer beaucoup dans le projet avec les gaspilleurs, c'est d'avoir le même degré d'accessibilité qu'un magasin, par exemple,
Okay.
mais avec que du réemploi. Donc ça, c'est clairement une vision sur le long terme. Aujourd'hui, souvent, on veut une table, donc on la veut hier. Donc c'est plus facile d'aller dans un magasin ou d'aller sur Internet, etc. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui va être assez difficile à combattre dans les habitudes de consommation des gens. Donc ce serait pour nous plus d'essayer d'aller rencontrer ce comportement-là en
Que
ayant...
d'essayer de tout transformer les comportements.
Mais d'offrir donc une expérience qui est équivalente à celle qu'on aurait dans un magasin, mais où on sait que tout ce qui est présenté, c'est du réemploi.
Mmh.
C'est des meubles qui ont été sauvés, des vidanges qui ont été réparés, qui ont été transformés, etc.
Fait que dans le fond, en ce moment, c'est ça, quelqu'un peut vous acheter un meuble tout fait, déjà? Vous avez un catalogue?
Oui. On a un catalogue pour les meubles qu'on a ramassés qui ne sont pas encore réparés. Donc ça, c'est un très bon moyen pour les gens d'adopter un meuble et puis d'avoir aussi toute leur créativité qui rentre en jeu. C'est-à-dire qu'on peut travailler ensemble pour prendre un meuble, le transformer pour l'intérieur de la personne, que ce soit pour les couleurs, que ce soit pour la fonctionnalité, etc. On est même en train de regarder pour développer un service de conseil et de design. Donc, qui permettrait de dire, ben, on va trouver le meuble ensemble, que ce soit sur les Kijiji, Facebook, etc., ou même dans nos nombreux ramassages, pour trouver un meuble qui corresponde à cet usage-là, et on le transforme ensemble.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est comme un premier catalogue de meubles, mais qui n'est pas encore transformé. Après, on a le catalogue des meubles qu'on a déjà transformés. Donc souvent, comme entre des contrats, on va prendre des meubles de rue, puis on va les transformer. Puis ceux-là sont à la vente. Puis après, bon, y a également le volet donc, des contrats pour les gens qui ont des meubles qui ont une valeur sentimentale.
Mm-hmm.
Ça, c'est, je dirais que c'est quand même les gens qui ont le plus de conscience, c'est ceux qui ont des meubles, les ont peut-être depuis une centaine d'années dans leur famille. Ils aiment l'idée de le garder, ils ont vécu toute leur vie avec, mais souvent, c'est comme le style ne correspond peut-être pas avec la décoration de la maison. Donc c'est vraiment cette idée de le transformer un petit peu pour qu'il puisse s'adapter au nouveau style de la maison. Ou alors des fois c'est même, les gens adorent encore le style du meuble, mais veulent le réparer, les tiroirs qui glissent plus, peut-être que le plateau du dessus a été magané avec les années. Donc c'est vraiment juste de lui donner une deuxième jeunesse.
Est-ce que les gens sont surpris de tout ce qui est possible de faire?
Beaucoup. On a un meuble qui s'appelle... On donne des noms à tous nos meubles.
Okay.
Ils ont tous... Chacun a une histoire, un nom, etc. Puis on en a un qui s'appelle Romuald.
Okay.
Et puis je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui l'aurait ramassé.
Okay.
Quand on regarde les photos... J'enverrai les photos avant, après. Puis c'est un des meubles qui a eu le plus gros succès pour nous sur les réseaux sociaux.
Okay.
Les gens étaient juste comme « Wow ». Et puis ça, c'est vraiment une réaction qu'on a souvent... de ne pas voir le potentiel dans quelque chose qui est complètement détruit. Il faut éduquer un petit peu l'œil pour voir qu'il y a un potentiel, quoi regarder, qu'est-ce qu'on peut ramasser, qu'est-ce qu'on peut sauver. Parce qu'on ne peut pas toujours tout sauver. Ça, on touche à un deuxième volet qui est quand même pas encore développé du tout, mais définitivement dans la vision, qui est de pouvoir recycler également les matériaux. Donc, y a plusieurs discussions avec différents acteurs du réemploi, parce que c'est une problématique qui est... vraiment forte. Également, la ville de Montréal a fait un plan sur la gestion des matières résiduelles juste là, en décembre dernier.
Il n'y a pas des centres de recyclage qui vont fermer, comme classiques, qui vont fermer. Il y a comme une...
Ouais,
ça brasse un peu.
Il y a eu beaucoup de vagues cette année avec les écocentres. Et puis, les écocentres ne sont peut-être pas un modèle viable selon nous, dans le sens où c'est comme... C'est beaucoup de tri. Il y a une partie des matières qui vont en écocentre qui sont réutilisées, mais ce n'est pas l'utilisation première d'un écocentre. Un écocentre n'est pas là pour prendre un meuble et lui redonner une deuxième vie.
Ouais.
Ce n'est pas la fonction. Alors que pour nous, c'est vraiment est-ce qu'on peut conserver la fonction des objets le plus possible. Et si on ne peut pas, c'est correct, mais est-ce qu'on peut prendre les matières et les réutiliser dans un autre projet? Donc c'est juste de prendre la matière telle qu'elle est, de la transformer un petit peu, mais de la réutiliser. Mm-hmm. Puis après, la dernière étape, ce serait vraiment le recyclage pur et dur. Donc, par exemple, de refaire fondre le métal, d'utiliser le bois pour du bois de chauffage. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça, c'est vraiment, ce serait la dernière étape. Mais pour nous, par exemple, dans le meuble, de récupérer toute la quincaillerie, puis d'avoir une quincaillerie où les gens pourraient acheter que de la quincaillerie, qui est de la quincaillerie de récupération.
Ah, ben oui.
C'est beaucoup de travail, honnêtement. Mais ouais. C'est comme ce genre de vision-là est beaucoup plus intéressant pour nous que cette idée de...
Ouais.
De mettre ça à l'éco-centre.
Puis nécessairement, le prix serait plus cher, là, dans le sens que, tu sais, il y a un humain qui a dû dévisser les vis et tout. Mm-hmm. Là, que des vis... Quoi que. C'est ça, si vous trouvez des meubles qui étaient abandonnés. Mais genre, je pense à moi, comme moi, je serais client dans le sens où, comme je serais prête à payer le temps. Parce que, comme tu dis, il y a une valeur. Tu m'as raconté avant qu'on en... Il y a une valeur sentimentale qui est inégalée. Parce que la personne peut aussi participer. Fait que participe au processus, elle peut choisir avec vous le meuble, mm-hmm. mais elle peut... je pourrais aussi arriver avec mon meuble. Puis vous pourriez m'accompagner.
Oui, on fait beaucoup
à
ça.
À refaire. Fait que ça, j'ai l'impression que c'est un autre niveau. De...
Ouais. Pour ceux qui aiment l'idée de travailler de leurs mains, de salir les mains, on fait de l'accompagnement aussi. Ouais. Puis l'idée est vraiment de soit prendre un de nos meubles, soit de venir avec son propre meuble, mm-hmm. puis d'apprendre les techniques. Puis on accompagne. Donc, il y a une partie d'accompagnement et d'enseignement pour les techniques. Puis ensuite, la personne peut travailler en autonomie sur le meuble. Puis si jamais il y a quoi que ce soit qui bloque, on est là pour répondre aux questions, pour montrer ce qui peut être fait. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Il y a certaines réparations qui sont des fois un peu trop techniques pour quelqu'un qui est débutant. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de transformations qui sont très accessibles et que les gens peuvent faire eux-mêmes. Puis l'autonomisation est quelque chose qui est très important pour nous. On n'est pas là pour cacher le savoir et le garder pour nous. Au contraire, on est là pour le donner parce que notre mission, c'est vraiment de sauver le plus de meubles possible. Donc, si jamais les gens peuvent le faire eux-mêmes et sauver des dizaines de meubles de leur bord, on est super content que ça se fasse.
Ouais.
On a créé plusieurs communautés en ligne, sur Facebook notamment, les meubles abandonnés et puis d'achat de vente et de dons de meubles. Justement pour cette raison-là, on était très conscients qu'on n'avait pas la capacité de ramasser tous les meubles. Mais donc en créant une communauté qui est quand même assez grande maintenant, je pense qu'il y a 1500 personnes dessus, puis ça continue de grandir. Ça fait en sorte que localement, les gens peuvent signaler les meubles et d'autres personnes peuvent les ramasser. C'est pas encore parfait, c'est pas tous les meubles qui sont ramassés, mais ça permet de mutualiser aussi l'effort. On n'est pas juste responsable, nous, avec... le collectif, de récupérer tous les meubles, ça peut être d'autres personnes qui nous aident dans le processus.
C'est beau de dire, au lieu d'essayer de créer une entreprise de plus en plus grande pour essayer de tout gérer, c'est de créer des réseaux pour donner du pouvoir aux gens. Moi, je trouve ça magnifique comme approche, là. Ouais. De justement dire, ultimement, que la plus grande transformation, c'est au niveau du savoir, puis de donner à la personne un sentiment de compétence. Je pense que c'est le terme plus technique, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. Moi, j'adore ça, là, parce que dans l'activité physique, il y a un gros discours autour de la motivation. Mais je me rends compte que l'étape avant, c'est que la personne comprenne qu'elle est capable de faire quelque chose. Puis une fois que tu vois l'impact de ton travail, tu tombes un peu en amour avec ça. Fait que de plus en plus de gens viennent vers vous. Est-ce qu'il y en a que... c'est ça. On dirait que ça me fascine de dire comment tu amènes les gens à bouger, comment tu amènes les gens à faire l'effort d'eux puis leur montrer que ça a le plus de valeur que de rester assis, de commander un meuble en ligne puis de le recevoir à sa porte, tu sais.
Je dirais qu'on a vraiment de la chance à Montréal. Il y a quand même beaucoup de conscience autour de ça. Je ne pense pas que ce soit le pire endroit sur Terre où être pour ça. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà cette conscience-là. C'est un discours qu'on entend souvent de dire, mais oui, j'aurais pu acheter un nouveau meuble, mais là, même hier, on récupérait une table de quelqu'un qui a acheté sa table sur Kijiji, qui savait qu'il fallait la retaper. Donc, c'est comme ce genre de comportement-là, pour nous, c'est parfait. Parce que c'est, donc je dirais que c'est quand même présent. Pour les gens qui ne l'ont pas, pour nous c'est beaucoup de transparence et d'éducation sur c'est quoi exactement l'impact d'acheter un meuble, c'est quoi l'impact de le mettre au vidange. Souvent, en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui nous contactent un petit peu pour se dédouaner de la responsabilité de gérer leur meuble. Donc souvent, on a des gens qui déménagent et qui nous appellent en disant « Est-ce que vous pouvez venir déménager nos meubles ?» donc il y a aussi ce comportement là des fois qu'on voit où les gens pensent vraiment nous faire un cadeau en nous donnant les meubles, Malheureusement, en ce moment, les meubles n'ont pas vraiment une valeur inhérente, dans le sens où il y en a tellement qui partent au vidange que comme nous, on n'est pas là pour acheter les meubles. Donc souvent, les gens veulent nous vendre leurs meubles ou nous demander de venir les déménager pour eux. Et un peu de cette manière-là, se détacher de la responsabilité de dire, mais comme peut-être que la solution, c'était de ne pas changer de meubles et puis de trouver une manière de les modifier. Peut-être que c'était... Puis aussi de ralentir un petit peu. Peut-être que la solution, c'était de dire, je vais les mettre en vente, même si c'est pas cher, jusqu'à ce qu'ils trouvent une maison. Puis quand ils auront trouvé une nouvelle maison, je vais acheter, moi, mes nouveaux meubles. Mais souvent, c'est... Donc ça, c'est quelque chose où on prend le temps d'expliquer aux gens c'est quoi les options, de prendre conscience des centres de dons, de prendre conscience de la possibilité de le vendre. Et puis même si ça prend du temps, des fois de le donner même sur Kijiji. Donc on explique un petit peu, puis on a beaucoup de contenu qu'on est en train de rédiger aussi pour le rendre encore plus accessible, puis le diffuser assez largement sur les réseaux sociaux pour que ça devienne un réflexe. Je dirais que quand on a un meuble dont on ne veut plus, il y a plein de solutions. On peut le vendre, on peut le donner, avant de le mettre dans la rue. Le mettre dans la rue, c'est...
Comme la dernière...
Seulement, c'est même pas une question que c'est la dernière, c'est que ça devrait même pas se faire.
C'est que tu dis qu'on peut le démembrer puis voir utiliser des pièces autrement.
Puis, donc c'est vraiment d'inciter les gens à prendre conscience que c'est aussi le rôle de chacun. C'est bien d'avoir un organisme et un collectif qui en fait sa mission, mais on pourra clairement pas faire ça tout seul. En ce moment, on est une petite équipe, on est 3 personnes. En réparation, on est 3 réparateurs. L'équipe, on est 4 dans l'équipe. Mais et à 3 personnes, c'est très difficile de faire, de couvrir tous les meubles. Donc c'est sûr, pour nous, on a vraiment besoin de l'aide et de la prise de conscience du plus grand nombre.
Mais je trouve ça intéressant parce que nous, notre vision, c'est que le mouvement, c'est pas juste pour brûler des calories. T'sais. Puis je pense qu'il y a autant de gens qui souffrent d'aller au gym ou de courir le matin. Souvent, on pense que faire de l'exercice, c'est jogger. Puis je pense que ça a ses bénéfices. Mais quand on pense que c'est juste ça, puis qu'on se dit que les gens souffrent de... Des fois, il faut juste briser l'inertie puis aller au gym quand même, puis ça fait vraiment du bien. Mais des fois, fait qu'on n'a pas envie de jogger en tournant en rond parce que, à mes yeux, des fois, c'est meaningless, tu sais, pour l'humain, comme de juste dépenser de l'énergie. C'est avant, dans la nature, c'était pas comme ça. T'sais. Tout ce qu'on faisait impliquait de bouger, tu sais, de cuisiner, de se construire un abri. Puis on dirait qu'on l'a complètement oublié, que notre vie nous fait plus bouger. Puis il faut volontairement rajouter de l'effort, tu sais. Puis maintenant, au lieu de me dire « Ah, là, il va falloir que je travaille de mes mains puis je répare telle affaire. » En tout cas, moi, je suis pas la plus fille la plus manuelle, mais je commence avec des trucs de bricolage. Puis on dirait que ça crée un certain momentum. Fait que oui, c'est de ramener l'idée que souvent, c'est ça, on pense que bouger, c'est au gym. Puis quand on doit faire un effort à la maison, c'est comme « Ah, c'est pas efficace, j'aimerais mieux être assis. » Puis là, on dirait qu'on veut switcher la perspective de dire « Si on bouge à la maison, si on fait des efforts, si on reprend cet environnement puis qu'on crée des choses avec nos mains, c'est ça, comme pour nous, du mouvement qui est significatif. Tu sais. Puis c'est là qu'on se rend compte aussi que le mouvement humain, comme le mouvement n'est pas juste important pour notre santé physique et mentale, mais que ça a une répercussion sur ce qui nous entoure. Parce que d'être sédentaire, ça fait que si on ne bouge pas nous, quelqu'un d'autre bouge pour nous quelque part. T'sais, si on commande quelque chose en ligne, c'est quelqu'un d'autre ailleurs qui nous l'amène, puis ça va impliquer de la dépense d'essence ou de toutes sortes de ressources. C'est Cathy Bowman qui nous a fait réaliser ça. Elle dit, réalisez que juste votre clé de voiture, là, si vous avez comme une manette, pour vous éviter de tourner votre poignet pour débarrer la porte, vous avez créé une petite technologie qui utilise des piles puis du plastique. Tu sais. Après, j'ai fait, aïe, c'est vrai. Puis quand tu penses à chaque petit geste qu'on fait plus au quotidien, c'est qu'ils sont remplacés souvent par des technologies, ça devient hallucinant. Ça. Fait que là, on est comme en mode, dans notre maison, de dire, OK, il faut recréer de l'effort, puis on va commencer à faire, essayer de faire plus de choses nous-mêmes. Puis si acheter un meuble neuf, on essaie que ça soit comme un peu une dernière étape.
J'aime vraiment ça. Maintenant, je vais y penser à chaque fois que j'ouvre mon char.
C'est pas une critique pour les gens qui ont une manette. Je pense que tout le monde en a une maintenant. C'est rendu tellement la norme. T'sais.
C'est comme sur la mienne, c'est compliqué. Il faudrait que je pèse sur le petit truc pour tirer la clé. Puis...
Mais tu sais, c'est de dire, OK, chaque petit, comme une poche à thé. T'sais, le fait qu'on n'a même plus à racler comme
pour enlever les feuilles.
Pour enlever les feuilles. T'sais, c'est juste, tu le trempes, tu le jettes. Mais juste ça pour t'éviter de voir comme là, on a créé une poche avec une agrafe en métal avec la... Ouais. Là, tu multiplies ça par des milliers d'inventions, des milliers d'humains, millions d'humains, milliards d'humains, comme... Puis on est en ce...
On a créé beaucoup de confort, je pense, oui. Ce confort-là, personnellement, je dirais qu'il n'est pas nécessairement... On a une voiture avec le projet parce qu'on a besoin de faire des livraisons de meubles, etc. Donc c'est comme très présent. Et, donc j'utilise mon Python aussi. Là. Mais le plaisir de faire dépasse grandement... Premièrement, je ne vois pas ça comme un effort physique. Je ne vois pas ça comme un entraînement. Quand je travaillais en informatique, j'étais moins présent dans mon corps parce que j'étais assis beaucoup. Même si j'ai essayé les bureaux debout, etc. C'est comme, j'étais quand même très sédentaire. Puis je me suis beaucoup entraîné en mouvement naturel, des pratiques qui justement visent à la réutilisation du corps. Plus que le gym, moi ça jamais été vraiment ma chose de lever des poids ou de...
Tu fais de la slackline d'ailleurs? Ouais. Je sais pas si t'en fais encore.
Ouais. J'en fais encore. Ouais.
Okay.
C'est, j'ai souvent cherché, j'ai fait de l'escalade, de la slackline, puis mouvement naturel, qui est comme... toute cette branche de mouvement où on essaie de bouger, soit avec les mouvements animaux, soit avec les mouvements d'évolution. Donc, comme quand on était bébé, on savait ramper, puis les gens ne savent plus nécessairement ramper et utiliser leur corps. Donc, c'est vraiment cette idée de réapprendre à utiliser son corps. Ça, c'était très présent quand j'étais en informatique. Puis maintenant, je te dirais que comme je bouge tellement à travers l'ébénisterie que comme je ne sens plus nécessairement le besoin de l'entraînement physique. Ça a pris une place secondaire. J'ai encore beaucoup de plaisir à pratiquer parce que c'est des activités que j'aime, c'est des sports que j'aime. Mais au quotidien, je soulève. Je prends cet exemple en juin-juillet, mais je ne sais pas combien de dizaines de tonnes, mais réellement de tonnes de bois j'ai soulevé quand on a fait le déménagement. Donc au quotidien, c'est beaucoup de manutention. Des fois, c'est un peu fatigant pour le corps, mais globalement, avec la conscience de comment bien bouger. Moi, ça m'a rendu beaucoup plus fort. Je pense que j'ai jamais été aussi fort dans mon corps que là, alors que je m'entraîne plus du tout. Et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir d'être dans un travail qui est manuel, dans un travail qui implique le corps, où je suis debout la majorité du temps, puis où je travaille de mes mains. Moi, les échardes, etc., ça fait vraiment partie du travail, de sentir le bois avec mes mains, puis... ouais, je comprends ça très bien.
Est-ce que tes mains se sont transformées? Est-ce qu'elles sont plus...
J'avais déjà des mains assez fortes à cause de l'escalade, je pense. Ouais. C'est comme... mais ouais, c'est comme... J'ai souvent des petites blessures, des cales, des blessures. Bah, la même, j'en ai souvent. Il y en a tout le temps. C'est comme... Okay. je mets pas de gants, j'aime pas ça travailler avec des gants. J'aime ça sentir la matière. Donc oui, les petites blessures, il y en a tout le temps.
J'ai demandé aussi au niveau de la masse musculaire, tu sais, parce qu'on réalise pas que les petits mouvements, tu sais, je trouve que l'activité physique, c'est souvent associé aux résolutions de début d'année. Puis là, il faut se mettre des objectifs smart. Fait que là, tu mets un objectif qui c'est mesurable, réaliste, spécifique. Puis là, on dirait que ma perspective sur comment créer des habitudes puis comment bouger, c'est plus de dire, il y a plein de petits gestes qu'on s'en rend pas compte, là, mais si on les fait des dizaines, des centaines, des milliers de fois, ça nous transforme. Puis ça nous rend, ça renforce notre corps sans qu'on ait besoin d'avoir un six-pack absolument défini. Puis une de nos invitées, c'était une professeure en hygiène dentaire qui a travaillé aussi en orthodontie. Puis elle expliquait qu'il y a beaucoup de problèmes de développement de la mâchoire. On s'en rend pas compte. Là, on pense que c'est génétique, par exemple, puis qu'on va avoir besoin d'un appareil. Mais elle dit c'est aussi dû au fait que la société, notre manger est mou. Il est préparé ou on mange des smoothies ou des purées. Fait que notre mâchoire a pu à travailler autant. Fait que la musculature de la bouche se développe pas pareil. Puis là, j'ai vu comme sur Internet un appareil qui... C'était ridicule. C'était pour mâcher pour les gens qui veulent se muscler le visage. J'étais comme, OK, on est rendu là, là. On le fait plus au quotidien. Fait que là, on crée une affaire pour le faire à notre place. Je trouve ça intéressant de savoir que tu as vu cette transformation-là chez toi. Est-ce que tu as senti aussi un impact psychologique? Entre le travail, ta vie de bureau, puis la vie dans un atelier?
Oui, je dirais que c'est la plus grosse différence, c'est la qualité de la fatigue. Ce que je veux dire par là, c'est que la fatigue, après une journée derrière un écran, assis, n'est pas du tout la même qu'une fatigue après une journée de travail, debout, à travailler dans un atelier. La fatigue, elle est là quand même, mais elle est beaucoup plus agréable. il y a plus un sentiment de, d'accomplissement. Pour moi, en tout cas, dans mon expérience aussi de, du travail en informatique, il y avait quelque chose qui appelle mental. Alors que là, c'est quand même, mon mental est beaucoup plus libre. J'ai souvent vu l'informatique comme une drogue. Pour moi, j'ai grandi avec, je fais ça depuis que je suis tout jeune. Puis ça m'a pris des années d'être capable de voir que cette pratique avait une influence sur mon cerveau.
Okay.
Donc, ça a modifié ma manière de penser, ça a modifié ma manière de voir le monde. Puis de désapprendre ça, ça a été quand même un processus assez long. Je dirais que c'est une bataille d'environ 5 ans dans ma vie, d'être capable de voir ça, puis de me détacher de cet impact que l'informatique avait sur moi, et de choisir autre chose. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, quand je suis à l'atelier, il y a vraiment cette envie de laisser l'esprit beaucoup plus libre, de ne pas l'attacher à quelque chose, puis d'être plus dans le ressenti et dans mon corps. Quand je suis sur un ordinateur, mon corps, il n'existe quasiment pas. Comme toute l'énergie monte dans le mental. Alors que quand je suis en ébénisterie, il y a quand même besoin de faire des calculs. Il y a besoin. Donc, je peux beaucoup plus facilement contrôler où est-ce que va mon énergie. Elle peut se balader beaucoup plus du physique.
C'est plus harmonieux. Ça m'intrigue vraiment l'aspect comment tu vas être l'informatique comme drogue. Puis ça a pris... Est-ce que tu as eu même une période de sevrage? Tu sais, quand tu dis que ça s'est allé sur 5 ans, c'était quoi l'enjeu pour toi? Qu'est-ce que ça te faisait ressentir?
J'ai eu plusieurs pauses. J'appelais ça ma prison dorée parce qu'il y a vraiment cette idée que c'est un domaine où, vu que je fais ça depuis que je suis tout jeune, j'étais quand même bon dans ce domaine-là. Il y avait beaucoup de demandes. C'est facile de trouver des clients. C'est un domaine qui paye bien. Donc, c'est pour ça que j'appelais ça un peu une prison dorée aussi. C'est comme il y a un certain confort qui s'installe là-dedans. Et j'ai fait plusieurs pauses, que j'appelais mes mini-retraites, où j'arrêtais vraiment le travail informatique. Au bout d'un moment, la réalité financière me rattrapait. Puis je retournais en informatique.
Okay.
Puis d'accepter diminution de niveau de vie, ça a pris du temps. D'accepter aussi le fait que comme il y avait quelque chose de plaisant, il y a quand même quelque chose, quand je parle de drogue, il y a cette idée que comme ça peut happer vraiment vite. Et puis cette idée de pouvoir créer n'importe quoi à partir de n'importe de rien, du vide, c'est aussi très plaisant. Il y a quand même quelque chose de très agréable là-dedans. Donc ça a pris 5 ans, parce que ça a été plusieurs pauses, je dirais, dans ma vie, où j'arrêtais vraiment le travail informatique. Je me souviens d'une année où j'ai justement fait beaucoup d'ateliers pendant cette année-là. Puis très peu d'informatique. Mais je l'ai fait pour moi. L'ébénisterie, c'était à l'époque, c'était vraiment au début. Puis c'est plus pour apprendre, pour faire des tests, pour apprendre les techniques en travaillant. C'est comme ça que j'aime apprendre. En fait, j'aime apprendre en faisant. Donc, j'ai fait beaucoup de ça cette année-ci. Puis au bout d'un moment, la réalité financière. Parce que il y a quand même des charges à avoir, un atelier en plus, un loyer, un atelier, etc. Donc,
être programmeur, il te faut un ordi, puis tu peux le faire sur une plage. C'est ça aussi la magie du web.
Oui, il n'y a pas de frais fixes, la réalité financière est très différente. Ça, c'est peut-être aussi, c'est un très bon point. C'est une des grosses difficultés de cette transition-là, c'est de dire comme le taux horaire est beaucoup plus élevé en informatique et il y a zéro frais fixe.
Ouais.
On passe en ébénisterie, les frais fixes sont vraiment très élevés et le taux horaire est beaucoup plus bas. Et il y a beaucoup plus de compétition aussi. Donc, c'est comme, il y a moins de demandes, il faut vraiment se faire sa place, puis trouver le créneau sur lequel on a envie de se développer. Donc, les réalités sont vraiment, presque aux deux extrêmes du spectre. Donc, je n'ai pas choisi deux choses un petit peu, genre un changement. Je vais aller de l'informatique à la consultation managériale ou je ne sais pas quoi. Puis c'est quand même... deux extrêmes.
C'est fascinant parce que je pense qu'il y a des gens... C'est quand même spécial de penser que les enfants qui naissent aujourd'hui vont peut-être vivre dans cette réalité virtuelle-là, puis ils vont mourir dans cette réalité-là, qu'ils n'auront peut-être plus à faire des choses de leurs mains. T'sais, justement, on peut passer notre carrière entière, on peut jouer en ligne, on peut comme tout commander en ligne. Puis je pense que j'ai l'impression que des mouvements comme ce que tu observes, l'humain a besoin, il y a comme un craving, qui est peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça, mais on a un craving de retourner au monde réel, de toucher des choses. Puis, tu sais, juste l'exemple que tu donnes, que tu ne portes pas de gants. juste pour sentir le bois. Il y a une différence d'expérience entre un meuble, ça serait un fini artificiel versus juste toucher le bois. Mm-hmm. Puis c'est anodin, mais je l'ai réalisé, c'est la designer d'intérieur, Elsie Crawford, elle explique que souvent, elle essaie d'avoir des finis qui n'ont pas des grosses laques puis du vernis, parce mm-hmm. qu'elle dit qu'elle veut voir puis sentir la fibre. Genre. Ou elle dit qu'elle investissait beaucoup dans les planchers, parce qu'elle mm-hmm. dit c'est la chose qu'on est, on est toujours en contact dans une journée avec le plancher. Puis j'ai fait, ah, c'est tellement vrai. Comme, j'avais pas vu ça de cette façon-là. Puis là, tu sais, on essaie de marcher beaucoup nu-pieds, puis j'essaie de me concentrer sur sentir les matières. Puis c'est tellement de petites choses qui, je trouve, des fois qu'on oublie, mais qui, ça enrichit le quotidien. Ouais. Ça enrichit nos expériences.
Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose que j'encapsule pour moi dans ce que j'appelle le degré de connexion. Et le degré de connexion, c'est quelque chose qui se mesure de différentes façons, mais il y en a une, c'est celle-ci. C'est comme, quel est mon degré de connexion à mon environnement? Puis ça prend différentes formes. Moi, je marche très souvent du pied. Pas dans un atelier, parce que c'est un peu dangereux, mais
c'est... Quoi qu'à la longue, t'aurais peut-être de la corne. Mais, tu pourrais t'exercer dans la gravelle.
Je marche en forêt, partout, nu pied. Donc c'est comme, je l'ai déjà, mais c'est juste que comme, des fois, il y a des vis ou des clous ou des choses comme ça. Donc c'est comme... Puis la CSST serait pas très contente.
Ouais. Et non, c'est le cap d'acier. Tu sais, c'est ça, les règles, c'est complètement l'inverse.
Et cette connexion-là est vraiment importante. Elle prend d'autres formes pour moi aussi, qui est quand je mets quelque chose dans la rue, de comprendre qu'est-ce qui se passe avec. Ça devrait pas être magique de poser une poubelle dans la rue puis elle disparaît. Mm-hmm. C'est important de comprendre où est-ce que ça s'en va. Donc pour moi, autour de cette notion de connexion, il y a l'idée de comprendre ce qui se passe. On a ça avec l'hyperlocal, donc de dire je vais faire mon compost sur mon balcon. Donc je comprends mm-hmm. le cycle complet de j'ai un fruit, éventuellement même je fais pousser mon fruit, je le consomme, puis je jette la pelure dans mon compost, puis je prends ça, puis je le remets dans ma plante pour faire de l'engrais. Donc là, on est comme à un degré de connexion qui est très élevé. Puis après, on a des degrés de connexion qui font juste dégringoler à partir de là, où on pose quelque chose dans la rue, puis ça disparaît, puis on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. On ne sait pas que la majorité de nos vidanges à Montréal partent et sont enfouis à Terrebonne. On ne sait pas que... Concrètement, il y a comme une déconnexion complète vis-à-vis de ce qui se passe avec notre environnement et puis nos actions. Puis ça prend aussi d'autres formes pour nous au quotidien dans le projet, qui est... degré de connexion qui serait très élevé, c'est de pouvoir aller rencontrer le client en tant qu'ébéniste, voir le meuble, parler avec la personne sur ce qu'elle veut faire. C'est la même personne qui récupère le meuble, qui travaille dessus, qui la ramène, qui communique tout au long du projet avec le client pour lui dire ce qui se passe, c'est quoi les bonnes surprises, les mauvaises surprises. Vu qu'on est dans la restauration, c'est pas toujours une ligne droite, des fois il y a des petites courbes. Et puis ça, personnellement, moi, c'est ce qui me plaît. C'est quand même... Tu parlais tantôt de ne pas devenir une immense usine, c'est quelque chose dont on ne veut absolument pas. On ne veut pas devenir une grosse usine qui va traiter tous les meubles de Montréal. On veut garder cette taille humaine et cette petite équipe pour pouvoir garder ce type d'échange-là avec les gens. Ça, pour moi, c'est un très haut degré de connexion. Puis, en ce moment, je n'ai pas trouvé une solution pour combiner croissance et connexion. C'est comme s'ils étaient opposés l'un à l'autre. Donc, si on... Parce qu'après, c'est comme on fait croître un projet. Puis finalement, il y a un gestionnaire de projet qui va parler au client, qui n'est pas ébéniste, donc qui n'a pas nécessairement les compétences, qui, lui, doit coordonner l'ébéniste, qui ensuite va envoyer un transporteur, qui ensuite va envoyer... puis on perd complètement la connexion. Donc c'est comme, il n'y a plus de lien entre la personne qui va toucher le meuble puis l'utilisateur final. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment tout le temps en conscience quand on prend des décisions, de dire comme, on veut garder un niveau de connexion qui est le plus élevé possible. Il y a une réalité économique aussi, donc c'est comme, ça coûte de l'argent d'avoir un ébéniste qui est comme une personne qualifiée dans un atelier s'arrêter pour aller faire une livraison où plus de gens auraient la capacité de faire ce travail-ci. Mais c'est quand même très important pour nous que ce soit qui est cette relation-là. Donc c'est... Ouais, garder la connexion le plus possible. Et puis c'est du travail, il faut le vouloir. C'est comme, C'est plus facile de prendre les poubelles, de les mettre dans la rue, puis qu'elles disparaissent.
Oui, c'est magique, c'est comme, oh, on n'y pense plus. Puis là, je pense que le web, c'est ça, le web et les nouvelles, ça a un empreinte des fois vraiment négative sur nos cerveaux, mais ça a aussi le bénéfice que ça nous a ouvert, ça nous fait voir les conséquences de nos actions de plus en plus. T'sais. Mais le degré de connexion, ça me fascine, cet enjeu-là de dire garder la connexion puis croître. Moi, tout, c'est un dilemme qui me... J'y réfléchis déjà, t'sais, on est juste moi puis Vince en ce moment-là. Mais on dirait qu'il y a une partie de moi qui a plus peur du succès que de l'échec. Parce que je me dis, comment est-ce que tu gères justement ce besoin d'expansion-là, mais que tu veux garder quelque chose d'humain? Puis là, je me dis, ah, peut-être que ça va être la création de cellules, tu sais, de dire, au lieu d'être une entité juste qui fait juste continuer de grandir, mais c'est de créer des espèces de pôles où comme on autonomise les gens ailleurs, puis ils deviennent en contrôle de leur communauté, puis je dis, on aura
possibilité d'en reparler parce que c'est très proche du modèle qu'on veut développer aussi. C'est cette idée d'emmagasiner. En fait, on est une sorte de gros laboratoire. Concrètement, ce qu'on fait, c'est de tester beaucoup de modèles différents. Toute l'année dernière, ça a été une période de test. Tester différents marchés, différentes manières de... Parce qu'on veut que ce soit réutilisé. Donc, c'est bien de faire de la réparation, mais s'il n'y a pas une réutilisation derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'était beaucoup de faire de tests pour évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Avec cette vocation-là de, au final, avoir un package où on peut dire aux gens, vous pouvez commencer ce projet-là avec, mettons, 20 ou 30 000 $. Ça vous prend un espace de telle taille. Vous avez besoin d'un entrepôt de telle taille.
Fait que même pas des franchises, mais comme les gens...
Ça pourrait être une franchise dans le sens où les gens pourraient avoir accès à un package qui leur dit exactement comment... Ça peut être un livre, ça peut être... Ça n'a pas besoin d'être une franchise où ça appartient. Mais après, il y a la mutualisation de l'effort de communication. Ça, c'est comme c'est quelque chose où je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur à mutualiser l'effort de communication que d'avoir plein de petits trucs indépendants, parce que c'est quand même beaucoup d'énergie aujourd'hui de se faire connaître. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait être mutualisé. Mais après, c'est sûr que comme chacun fait dans son quartier, puis chacun a des réalités différentes. C'est-à-dire qu'un quartier ne va pas vendre les meubles au même prix qu'un autre. Donc, chacun peut s'adapter parce que les loyers ne sont pas les mêmes. Peut-être que comme, le coût de la vie n'est pas le même. Donc, chacun peut aussi modifier son modèle localement. Mais c'est vraiment de trouver une sorte de formule de base que les gens peuvent... utiliser. C'est quelque chose que fait beaucoup Precious Plastic.
Je connais pas.
Là, ils étaient en Allemagne, puis c'est vraiment cette idée de trouver de fabriquer des machines, de mettre en ligne tous les plans pour la fabrication des machines, de trouver c'est quoi la taille d'une usine de recyclage locale pour que n'importe qui puisse commencer à faire ça. Okay. Récupérer le plastique localement, le transformer pour en faire des objets. Je trouve ça super intéressant. C'est quand même beaucoup de partage d'informations, beaucoup de partage de tests, de connaissances pour arriver à une sorte d'unité fonctionnelle. Puis ça, c'est comme quelque chose qui nous parle beaucoup. Ouais.
Ah, c'est drôle. Parce que moi, mon rêve, c'est de construire l'atlas du mouvement. On a trouvé ça. Au début, même au début du projet, là, pendant un instant, là, j'avais pensé à appeler ça Atlas. Parce que moi, j'aime la connaissance, puis je suis une collectionneuse, mais là, je me disais, je ne veux plus collectionner des objets physiques parce que ça demande de l'espace, puis il faut de l'entreposer. Mais là, je me disais, OK, je mets des idées, tu sais, sur le web, tu peux l'emmagasiner d'une certaine façon. Fait que là, créer un atlas du mouvement, puis de trouver les façons, les jeux que les gens... Comment un humain bouge. Puis de voir dans le monde, c'est quoi les jeux, tu sais, les jeux de notre enfance, que les comptines ou... Toute cette connaissance-là qui est partagée, puis que c'est pas nécessairement inscrit nulle part, mais que ça pourrait inspirer d'autres personnes ailleurs. Ou avec Participation, on a découvert des jeux autochtones super simples à faire, puis il y a tout l'aspect culturel aussi qui embarque. Fait que là, c'était de dire, OK, un jour, je vais faire une tournée, comme je veux aller voir dans le monde ce qui se passe, mais je me disais, ah, est-ce qu'on crée justement des unités ou des. T'expliques aux gens comment se montrer un studio, puis que. Moi, je deviens plus une connexion à eux qui, eux, créent leur propre contenu. Puis que là, tu gardes l'identité propre de chaque communauté ou peuple au lieu de juste, avec le point de vue de Montréal, comme un peu rendre ça tout à ta saveur. Tu sais, fait qu'en tout cas, mais...
une grande question parce que c'est quand même... Ouais, je pense que ça prend beaucoup d'humilité et de temps de pouvoir s'imprégner d'une autre communauté ou d'un autre endroit. Moi, je le vois parce que je suis pas né à Montréal. Ça prend du temps de pouvoir...
T'es français?
Moi, je suis français. Et ça fait 11 ans que je vis ici. Puis ça a pris... Même si j'ai comme fait un effort de m'intégrer, Ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines. On peut pas arriver quelque part en 2 semaines, dire comme, ok, je vais essayer de comprendre tous les enjeux et imposer quelque chose. Donc c'est, ouais, pour moi il y a quelque chose vraiment à propos de prendre du temps. Donc ça me parle beaucoup cette idée d'avoir plus des gens locaux qui vont développer quelque chose avec. Eux connaissent déjà ce qu'ils vont pouvoir dire, ça fonctionnera jamais ici. Mm-hmm. Puis ils ont probablement raison parce qu'ils ont grandi là-bas, mm-hmm. ils connaissent les dynamiques, etc. Donc je trouve ça intéressant de mm-hmm. faire confiance aux locaux, de savoir ce qui est bon pour eux.
Mm-hmm. Ouais. On s'en reparlera. Ouais. C'est la première fois qu'on parle de modèle de gestion en podcast. <Ouais. rire> C'est quand même vraiment intéressant. Pour revenir au niveau de connexion, c'est fascinant comment. C'est ça, on est tellement déconnecté des modes de production, de toute la chaîne en fait. T'sais, on est déconnecté de comment les choses sont faites, d'où viennent les matériaux, les ingrédients, puis de ce qui se passe après. Puis j'ai l'impression que plus on recule, puis on a cette perspective-là sur la chaîne au complet, plus on réalise à quel point c'est, la chaîne est brisée, ça marche pas. Là, puis que même au niveau du plastique, il y a cette comme illusion-là, je pense que si on met du plastique, c'est recyclé, c'est correct, mais là, tu commences à entendre que les centres de tri sont débordés, il y en a qui ferment. Beaucoup de choses finissent à la dompe, il y a des choses qui ne sont jamais recyclées. Récemment, je ne sais pas si vous pensez que Coca-Cola a annoncé qu'ils ne vont pas renoncer au plastique parce qu'ils disaient que les consommateurs veulent encore ça, puis on perdrait des parts de marché. Fait que là, ils disent on va recycler, tu sais. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir s'ils vont réussir à fermer la boucle eux-mêmes, là, puis à vraiment réutiliser leur truc. Mais...
Le recyclage n'est pas une solution. Pour moi, ça c'est toujours été assez clair que comme, ça prend des ressources de créer une bouteille en plastique. Ça prend des ressources de la déplacer, ça prend des ressources de la collecter, ça prend des ressources de la transformer à nouveau pour la réutiliser. Et beaucoup plus que, par exemple, une bouteille en verre. Selon moi, si les brasseurs du Québec font de la consigne, parce que c'est une consigne privée, c'est pas une consigne d'État, c'est pas une décision du gouvernement d'imposer la consigne aux brasseurs. S'ils ont décidé ça, c'est qu'il y a une raison économique aussi derrière ça. Puis je pense qu'en moyenne, ils estiment à 10 utilisations par bouteille. Puis ça coûte moins cher que de la faire fondre et donc de recycler. Puis moi, cette réalité-là me parle beaucoup de réutiliser. C'est juste qu'avec le plastique, je pense que je suis pas expert là-dedans, mais c'est comme, je pense que le modèle économique n'est pas le même. C'est-à-dire que comme la bouteille en plastique, elle est écrasée, etc. Donc elle garde pas sa forme autant, donc on peut pas la réutiliser de la même façon. Donc le recyclage est pour moi pas vraiment un modèle qui fonctionne, qui a jamais fait de sens. C'est comme, comme je disais, c'est le dernier maillon de mettre son meuble dans la rue. C'est un peu la même chose pour le recyclage. Pour moi, j'essaye de le voir comme ça devrait être le dernier maillon. Pour vraiment tout ce où on n'a vraiment pas le choix. C'est au niveau de ne pas consommer, première étape, si on a vraiment besoin de consommer quelque chose qui va durer, puis ensuite de le réparer, de le réutiliser, de le transformer, puis seulement quand il est en fin de vie, puis qu'on ne peut vraiment plus rien faire avec, et ben là, on envisage de le recycler.
Je pense que de faire la boucle au complet soi-même, peu importe c'est quoi, là, avec un objet, un meuble, sa nourriture, je pense que de le faire une fois, c'est ce qui te fait comprendre tout l'effort que ça implique, puis que ça rend ça, tu sais, le mot en anglais que j'adore, c'est meaningful, en français, significatif, c'est pas aussi sexy, mais c'est pas aussi comme puissant, on dirait, là, ça vient pas, mais tu sais, c'est pas aussi significatif. Puis d'avoir des réalisations complètement stupides. J'ai commencé à jardiner. Justement, je voulais faire mon compost. Il n'y en avait pas encore à vivre à ce moment-là. Puis là, juste gérer les verres, là, que j'avais mal dosé mes affaires. Puis là, ils sortaient du bac. Puis comme, tu sais, juste après de dire comment, c'est juste un bac, comment je le transporte maintenant, tu sais. C'est aussi simple que ça. Là. Si je fais du compost sur mon balcon, qu'est-ce que je fais avec? Fait que là, j'ai commencé à jardiner là, pour réutiliser ma terre. Mais il a fallu éventuellement, j'ai dompé chez mes parents à Laval parce qu'on a eu un grand jardin. T'sais. Fait qu'eux, ils étaient contents. Mais tu sais, de tout penser à ces petits gestes-là, puis là, c'est à l'échelle d'un humain. Mais là, on a créé un méga système autour pour que cet effort-là soit fait par d'autres personnes. En tout cas, fait que là, tu commences à faire pousser des choses. Puis des trucs aussi niaiseux que... J'achète une pomme, je peux remettre les graines puis les faire pousser. C'est con, là. Mais tout allait au compost, tu sais, comme moi, à la poubelle avant, là. Puis là, j'ai fait, hey, je peux juste réutiliser mes trucs à l'infini, là. Tu sais, je peux comme être. En tout cas, puis là, j'étais fascinée de dire, c'est la nature, c'est la règle de base de la nature, là, tu sais, la reproduction. Puis j'étais comme, je trouvais tellement ça, tu sais. Puis là, tu te rends compte qu'il y a plein de petites choses comme ça quand tu fais le cycle au complet, que c'est, on dirait que ça, ça t'émerveille puis ça te reconnecte avec le cycle de la nature, tout simplement.
C'est une question que je me pose beaucoup, cette question, c'est est-ce que je peux comprendre la manière, comment est-ce que ça fonctionne? Ça, ce serait la première question. Comment est-ce que c'est fabriqué? Est-ce que je pourrais le réparer moi-même? Puis si ces questions sont, deviennent floues, j'essaye de limiter comme ma consommation à cet endroit-là.
Ok. T'as-tu un exemple?
Mais un mauvais exemple, mais c'est les téléphones, les tablettes, ordinateurs, mm-hmm. etc. C'est comme, c'est impossible pour moi de les réparer. Donc techniquement, ce serait quelque chose que j'essaierais d'éviter. Bon, c'est un outil de travail, donc c'est sûr que comme j'ai un ordinateur, mais comme, c'est un bon exemple pour moi de quelque chose qui comme dépasse complètement le champ de mes compétences.
Ok.
Puis on peut prendre quelque chose de plus simple, parce que ça c'est quelque chose sur lequel j'ai commencé à agir, qui est ma voiture. J'ai commencé à faire ma propre mécanique.
Ok.
Donc de m'éduquer, ça c'est quelque chose qui m'a frappé vraiment, c'est comme, je pense à mon père, il est capable de réparer beaucoup de choses sur son véhicule, peut-être pas tout, mais il y a beaucoup de choses où il est autonome. Puis j'étais dans la famille récemment, puis on a crevé, puis mon frère était comme, ça savait pas comment changer un pneu. Donc c'était quand même intéressant pour moi de voir ces différences-là de génération. C'est quand même, bon, moi, j'ai la malchance d'avoir changé beaucoup trop de pneus. J'ai eu beaucoup trop de crevaisons.
Avec les nids de poule de Montréal.
Mais donc, de voir ça d'une génération à l'autre, à quel point on est devenu mm-hmm. de moins en moins compétent manuellement. Et c'est quelque chose qui, moi, me surprend puis qui comme, fait pas de sens. C'est comme si c'était une régression, en fait. C'est pas une amélioration. Donc à chaque fois maintenant je me pose cette question là pour les achats pour une voiture. Donc j'ai longtemps eu des voitures que je pouvais pas réparer parce qu'il y avait trop d'électronique dedans. Puis ma dernière voiture, c'est une voiture super simple, et je peux intervenir dessus. J'ai pas besoin d'avoir un mécanicien avec plein de connaissances en électronique, etc. Je peux intervenir sur ma voiture. Donc ça c'est comme pour moi un bon exemple de quelque chose où j'essaie de rapprocher le plus possible mes connaissances et ma capacité d'action sur ce que j'achète. C'est pas parfait, je suis pas encore mécanicien, puis c'est pas chacun son métier, là, mais c'est comme, il y a beaucoup de choses sur lesquelles maintenant je peux être autonome, je peux changer des freins, je peux comme toutes les plein d'actions de base, même ça se fait, c'est comme c'est accessible. Il faut juste le faire, puis prendre l'énergie de comprendre comment ça fonctionne. Puis ben, c'est sûr que ça fait un peu peur. C'est quand même...
Mais c'est de prendre l'énergie. Puis je pense que les. Puis j'ai l'impression qu'éventuellement, toi, il y a un certain momentum, un cercle vertueux qui se crée où ce que tu comprends en mécanique doit t'aider en ébénisterie. Il y a comme une compréhension de certains concepts qui doit t'enrichir. Ouais. Puis plus ça va, puis plus tu sens que tu comprends le monde autour de toi.
Vraiment, oui.
On a eu des bonnes réflexions sur la technologie récemment, hein, moi puis Vince. On s'est tapé le Seigneur des Anneaux dans le temps des fêtes. Puis on a commencé à lire sur la symbolique de l'anneau, en fait. Puis je savais pas, mais Tolkien fait la guerre. Puis pendant la
Première Guerre mondiale. Ouais.
Puis lui, ce qui lui l'a vraiment blessé aussi, c'était de voir avec la révolution industrielle la destruction des habitats naturels. Puis, ça m'a émerveillée, mais c'est pour ça que un des personnages emblématiques, c'est les arbres, dans certaines scènes. Puis l'anneau, mais je sais pas, on a vu différentes interprétations, mais une, c'était que c'est la représentation d'une arme nucléaire, où l'homme, pour la première fois, avait créé quelque chose qui peut l'autodétruire. C'est assez fascinant quand on y pense avant. Puis avant, il n'y avait aucun moyen de détruire toute la planète en un instant.
T'sais. 6 fois, je crois. On a 6 fois la puissance nucléaire de détruire la Terre.
Puis c'était aussi une représentation plus global de la technologie. Puis de dire, la technologie te rend plus puissant. Comme tout objet concret augmente nos capacités. Une tasse va augmenter nos capacités à boire, mais le revers, c'est que si la capacité est dans l'objet, on n'a plus à la développer. Puis je pense que l'humain, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on est super ingénieux, fait qu'on s'émerveille de notre génie d'avoir créé des choses qui nous simplifient la vie. Mais plus ça va, puis plus en fait on est dépendant des technologies qu'on crée. Puis moins on est apte à faire les choses nous-mêmes. Puis je pense que c'est ça, je me demande, est-ce qu'à chaque génération, on se dit que là, c'est un seuil critique? Tu sais, je serais curieuse de relire les journaux dans, là, comme 50 ans, 100 ans, 2000 ans. Est-ce qu'à chaque époque, l'humain pensait que la fin était imminente comme on le sent aujourd'hui, tu sais? Mais j'ai l'impression que psychologiquement, on a tellement retiré le mouvement dans notre vie puis le travail manuel que là, on en souffre. Puis on s'en rend pas compte exactement pourquoi. Parce que c'est pas un mal aussi direct que de dire, tu sais, tu te cognes, t'as mal ou comme... Là, c'est un peu diffus, tu sais. Ça a juste été enlevé de nos vies. Puis comme tu dis, quelque chose brise, on se sent complètement démunis. Puis au contraire, de réapprendre ça, ça fait du bien, tu sais. Mais...
Moi, je dirais qu'il n'y a pas... C'est quelque chose, c'est aussi un gros enjeu parce que j'aime les choses, j'aime la technologie, j'aime le, les... Par exemple, dans le mobilier, il y a de la quincaillerie très haut de gamme. C'est vraiment un vrai plaisir de l'utiliser, de voir des meubles très, très bien fabriqués. Donc, il y a, je le vois comme presque deux choses séparées. Comme, c'est pas un refus du progrès. Et on peut faire des choses très, très bien de la bonne manière. Donc, on peut continuer à progresser. Il y a même probablement des manières de faire des ordinateurs qui ne brisent pas, puis qui sont réparables, puis qui sont... Donc c'est comme, c'est plus une invitation à faire les choses de la bonne façon. Mais bon, là, on va rentrer dans un autre sujet, mais c'est comme, j'ai l'impression que c'est comme tout est fait pour l'argent. Que c'est comme... C'est génial l'argent, c'est bien de faire de l'argent, mais c'est comme... jusqu'à quel point?
Mais c'est...
Pour des chiffres dans un ordinateur. C'est comme... Parce que c'est comme, c'est ça au final, c'est juste des chiffres dans un ordinateur, c'est comme... Donc c'est devenu presque la seule chose qui compte. On mesure tout à ça. C'est l'unité de mesure de tout. On n'a pas d'unité de mesure à c'est quoi l'impact sur mon environnement. Est-ce que je suis en train de détruire complètement la Terre sur laquelle je vis? Quand je dis la Terre, c'est même pas juste la planète Terre, c'est juste comme le sol en dessous de chez moi. Comme, c'est génial de mettre des pompes à essence partout en ville, tous les sols sont ultra contaminés autour des pompes à essence. Quand on a rempli toutes les carrières de Montréal avec des ordures, c'est génial, mais c'est comme maintenant on a tous les sols contaminés. Donc c'est comme de juste penser un petit peu à ça, puis d'essayer de faire les choses bien pour le long terme aussi. Mais donc c'est pas un refus pour moi du progrès, c'est pas un refus de la technologie. Mais c'est plus, ça revient plus à cette question de connexion. C'est comme, je préférerais acheter quelque chose qui a été fait localement plus cher, avec une usine où le savoir est quand même pas si loin que ça au final. Vu que le savoir est pas très loin de moi, je peux les consulter s'il y a besoin d'avoir une réparation. Plutôt que de dire, comme c'est quelque chose qui est fabriqué à l'autre bout du monde, il y a très peu de gens qui ont les compétences de le réparer. Donc concrètement, je suis dépendant du vendeur pour le faire réparer et de son bon vouloir. Donc c'est plus cette logique-là de recréer de la connexion que de refuser le progrès. Pour moi, en tout cas, je le vois comme ça. Puis après, pour la question du mouvement, à travers le fait que la technologie réduit le mouvement, ça, pour moi, je pense que c'est une des choses qui me rend le plus heureux, c'est d'être comme fonctionnel. Pouvoir réparer les choses moi-même, ça me rend heureux. Pouvoir, y a quelque chose qui génère vraiment de la joie. Le sens est comme presque inhérent à l'activité. Il n'y a même pas besoin de le chercher tant que ça. C'est juste le simple fait de le faire. Il y a un sentiment d'accomplissement qui est satisfaisant. Je pense que tout le monde, quand il a comme un enfant qui accomplit quelque chose, il est content. Ouais. C'est... puis je pense que c'est un peu la même chose.
Ça va être un collage de macaronis. Puis c'est
ça. Ouais. Ça prend vraiment pas grand chose.
Ouais.
Je pense vraiment que c'est simple comme ça. Donc,
On a une prof de loisirs aussi qui est venue. Puis elle a dit une phrase qui m'a marquée. Elle a dit « L'aliénation de l'homme, c'est de ne pas voir le fruit de son travail. » Puis c'est vraiment ça. Tu sais, on a comme créé une chaîne où des objets sont produits avec plein de maillons partout dans le monde. Puis nous, on est l'acheteur, puis on voit une mini-parcelle. C'est ça, comme on disait tantôt, tu vois pas d'où ça vient, tu vois. Mais aussi, comme travailleur, des fois, on travaille sur un mini maillon d'une méga chaîne. Puis c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de personnes qui voient pas de sens dans leur travail, parce que tu fais une mini chose puis tu vois pas qu'est-ce que t'accomplis réellement, tu sais. Tu perds la perspective sur qu'est-ce qui est créé en bout de ligne, puis t'es détaché de ce qui est créé en bout de ligne. Puis justement, que tu réfléchis, tu te rends pas compte que ce que tu crées en bout de ligne, la compagnie pour laquelle tu travailles, c'est peut-être vraiment destructeur, ou c'est peut-être pas aligné avec tes valeurs, mais tu t'en rends même pas compte toi-même parce que c'est juste trop loin de toi, tu sais. C'est juste trop... éloigné.
Je pense vraiment que c'est cette idée d'opposition pour moi entre connexion et croissance. Que comme ils sont... J'ai pas la réponse, mais j'ai vraiment le sentiment en ce moment qu'ils sont mutuellement exclusifs. Il faut choisir, ouais. En fait, sur le... Ils sont opposés sur l'échelle.
C'est une bonne réflexion.
Au niveau de la technologie en tant que telle, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nécessitent tellement de complexité, qui ont tellement de complexité inhérente, qu'il n'y a pas vraiment le choix d'avoir des entreprises énormes pour les réaliser.
Ouais.
Alors après, c'est comme, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on a besoin d'un téléphone qui va plus vite tous les ans? Je ne sais pas, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui diraient que oui. Je pense que c'est une décision personnelle, mais je pense que mon dernier téléphone m'a duré 7 ans. Puis je suis super content de ça. J'achète tous mes téléphones d'occasion. Puis j'essaye de faire en sorte qu'ils durent le plus longtemps. Ça reste des téléphones intelligents, puis c'est comme... Mais au moins d'avoir...
Ouais.
D'essayer d'approcher ça de cette façon-là. Ouais. Mais la complexité permet des choses géniales, enfin, de pouvoir avoir au final... Je l'ai vu quand je travaillais en informatique, c'est comme, il y a beaucoup de complexité. C'est des domaines où on fait parler beaucoup de choses qui viennent de beaucoup d'endroits différents, créées par différentes personnes, surtout dans le monde de l'open source. Donc c'est comme ça. Ça, c'est pour moi un exemple d'un endroit où c'est beau, cette complexité-là. Comme les gens donnent gratuitement de leur temps pour créer du code et des projets, les mettre à disposition, puis les gens peuvent créer des choses avec tout ça, tous ensemble. Il y a énormément de complexité, donc ce n'est pas non plus un refus de la complexité. Mais c'est fait d'une manière, selon moi, qui est peut-être un petit peu plus... Le degré de connexion reste assez élevé, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine transparence, mais c'est quand même très complexe. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut avoir des très hauts degrés de complexité et beaucoup de connexion. Je ne sais pas dans quelle mesure, dans l'échelle aussi, ils ne sont pas en opposition. Je prends l'exemple de l'open source parce que je pense que c'est un endroit où il y a beaucoup de complexité et quand même plus de connexion, donc il y a quand même des manières d'amener les deux en même temps. Contrairement à, mettons, de travailler qu'avec des codes fermés, des logiciels, etc., où on comprend un petit peu moins ce qui se passe. On a moins d'impact dessus, on est dépendant de l'entreprise qui écrit le code, de faire les modifications ou non. Alors qu'en open source, on peut les faire nous-mêmes. Donc, ce genre de choses crée plus de connexion dans le modèle avec un résultat similaire de complexité. Mais...
Je suis silencieuse parce que ça me fait vraiment réfléchir.
Ouais, c'est comme...
Je trouve ça vraiment
ça m'occupe beaucoup de temps de réflexion, cette dynamique-là.
Mais c'est fascinant parce que même nous, tu sais, on veut créer l'Atlas du mouvement qui va être hébergé en ligne. Puis pendant un moment, tu sais, je démonisais un peu, on dirait envers moi-même dans mon quotidien, ma relation aux ordinateurs, je ne savais pas trop quoi penser, tu sais. Je me dis, est-ce que je suis dépendant ou est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me nourrit ou est-ce que je suis juste accro? T'sais? Là, j'ai comme réalisé, là, j'ai commencé à plus me dire, non, c'est un outil. Puis j'ai le pouvoir de l'utiliser dans la direction que je veux. Fait qu'en soi, il n'est pas nécessairement mal, mais il faut que je sois consciente de l'impact qu'il y a sur moi, ça, c'est sûr. Puis sur le web, il y a du contenu, c'est de la junk. Puis il y a du contenu, c'est vraiment enrichissant. Tu sais, c'est pas de dire « Ah, tout, c'est de la junk », parce que non, il y a vraiment une grande disparité dans la valeur puis la profondeur de ce qui est présenté sur le web. Puis il y a des choses, c'est comme... C'est du crack ou c'est comme manger des bonbons, là, qui sont super succulents, mais ça te hook, mais ça t'as encore faim après. Puis c'est ça, le modèle. C'est ça qui est particulier, tu sais. J'avais eu des discussions des parents sur des chats qui parlaient de Fortnite. Puis l'impact que ça a sur les enfants, parce que c'est vraiment... T'sais, les écrans, puis les enfants, puis le jeu libre, c'est aussi un enjeu vraiment fascinant. Puis je pense qu'on en est pas, qu'on sait pas encore se prononcer. On se prononce pas trop dans le sens... Avant 2 ans, pas d'écran. Mais là, après, c'est comme un peu plus nébuleux parce que ça a plein d'utilité. Puis c'est dire, la responsabilité est sur qui, finalement? T'sais? Es-tu sur le parent? Es-tu sur la compagnie? C'est des milliers de personnes vraiment ingénieuses qui ont conçu quelque chose pour être vraiment addictif. Fait que je pense que finalement, nous, notre conclusion, c'était « OK, non, il faut juste prendre conscience, puis si tu l'utilises avec conscience, puis tu modères certains trucs qui sont hautement addictifs, comme je pense qu'on peut se débrouiller. » Puis finalement, c'est ça, nous, notre compagnie se fait à travers un ordinateur qui a grandement contribué à la sédentarité de l'humain. Fait que là, Ouais, en tout cas, c'est un dilemme qui est... Mais on s'est dit...
Je te comprends
très bien. C'est ça, mais l'ordinateur nous permet de rejoindre des gens puis d'emmagasiner la connaissance d'une certaine façon que une tradition orale ou les expériences réelles, on est... Il y a une... Comment dire? C'est pas la même chose, tu sais. Ça accomplit des fonctions différentes. Puis la fonction de emmagasiner les idées puis de les partager, ça a aussi de la valeur, tu sais. Fait...
Ça a beaucoup de valeur,
ouais. Mais...
Tu sais, c'est... pour moi, c'est que ça a été... Quand je dis que ça a été tout un processus de 5 ans de sortir de l'informatique, ça a été aussi un processus d'être en paix avec. Parce que il y avait une volonté de dire comme je veux plus rien savoir de ça. Puis si je l'enlève complètement de ma vie, ça va aller mieux. Mais en fait, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. C'est comme exactement ce que tu dis. C'est un outil. Puis c'est ma relation à l'outil que je dois modifier. Puis c'est la seule chose sur laquelle j'ai un pouvoir au final. C'est comme j'ai pas de pouvoir sur l'outil en tant que tel. L'outil, c'est un outil. On n'est pas dans Matrix, je peux pas le... je peux pas plier la cuillère. Et mais par contre, je peux travailler sur ma... Peut-être que oui.
J'ai écouté récemment beaucoup de Joe Rogan à ses podcasts et fasciné par le sujet « Est-ce qu'on est dans une simulation? » J'ai récemment... Parce que ça me... Mais oui, excuse-moi, continue.
On est dans un jeu, moi, j'ai cette idée. Ouais. Ça me plaît bien, cette idée. Et, Donc oui, la relation à l'outil. Puis c'est vraiment ça sur quoi j'ai un impact. C'est de comprendre c'est quoi ma relation avec cet outil-là. Est-ce que j'ai envie de le garder dans ma vie ou non? Est-ce que ça me fait du bien ou non? Est-ce qu'il a du bon ou du mauvais? Puis juste de mesurer, c'est quoi? Ça m'a pris du temps. Maintenant, c'est un outil que j'utilise. Puis ça m'a pris du temps de ne pas faire un amalgame de tout.
Ça c'est mauvais. L'ordinateur...
C'est tout mauvais.
Ouais.
Je pense que c'est difficile parce qu'il y a un sentiment d'urgence pour les gens qui se documentent sur le sujet. Donc je pense que c'est comme quelque chose qui est probablement aussi conscient, dont tu es aussi probablement consciente, qu'il y a un sentiment d'urgence. Comme on dit qu'un vol d'avion et puis tu as consommé ton empreinte carbone de l'année autorisée, techniquement. Enfin, c'est comme, mais en soi, on vit à crédit sur la planète. On parle, ça se rapproche à chaque année. Donc on a utilisé toutes les ressources très vite. Donc il y a ce sentiment d'urgence qui est réel aujourd'hui, comme les scientifiques en parlent beaucoup, de dire que comme, c'est une réalité, et puis c'est pas une question, c'est pas un débat. Et je pense que ce sentiment d'urgence-là, pour moi, était très difficile de dire que comme, bon, en fait, si je veux vraiment inverser la tendance et puis participer à ça, les changements sont drastiques. Sont vraiment drastiques. Mais une chose qui m'aide beaucoup, c'est qu'on n'a pas besoin d'une personne parfaite. On n'a pas besoin d'un ermite dans la forêt. On a besoin que tout le monde, collectivement, on ralentisse. Puis personnellement, je crois qu'il y a beaucoup plus d'impact à ce que moi, j'utilise un ordinateur, mais que j'impacte 1000 personnes à ralentir, que j'arrête d'avoir un ordinateur, que j'aille me mettre dans la forêt en ermite. Est-ce que j'ai raison ou pas, je sais pas, mais c'est plus l'approche que j'ai décidé d'avoir. Puis quand je dis ermite, c'est même pas une question d'ermite, parce que c'est un petit peu un cliché rapide. On peut être dans la forêt sans être un ermite. <mais c'est> comme...
Ouais, je comprends absolument, parce que moi c'est une réflexion que j'ai eu quand j'étais jeune. J'avais aimé le film Castaway, puis j'aimais Gilligan puis Robinson. C'était Sucroé, là, une émission pour enfants qui avait été créée au Québec. Puis je me dis, ah, c'est sûr qu'un jour, si je me retrouve sur une île, il y a une partie de moi qui va être vraiment heureuse, tu sais, parce que je vais avoir je vais me faire des bols en coconut, puis genre, je vais avoir la paix, tu sais. Mais là, j'ai comme réalisé que, au contraire, en ce moment, j'adore vivre en ville, puis je peux pas m'imaginer ne pas vivre en ville dans le futur, parce qu'il y a énormément de ressources à disposition, c'est super stimulant, il y a comme un réseau de personnes, puis que mon rôle dans la société, je le voyais comme, OK, amener les nouvelles idées puis pouvoir les partager. Puis je me disais, si je m'en vais en ermite, moi, c'est ça, là, en ermite dans la forêt, là. Puis une partie de moi qui est émerveillée aussi des gens qui le font, là, comme... Mais je me disais, ben je sens que mon empreinte négative est moins grande, tu sais, je me sens autonome, mais j'ai plus de connexion avec le reste du monde. J'ai plus de connexion, ça veut dire que, tu sais, est-ce que je m'amène des livres, là? Tu sais, comme qu'est-ce que je fais pour... Comme mon accès à la connaissance, mon cerveau, est-ce que je vais être tout le temps stimulé? Est-ce que je vais sentir que je contribue à quelque chose de grand? T'sais? Cet aspect-là communautaire n'est plus là. Fait que ma conclusion, c'était que je ne serais pas sur une île déserte, finalement.
mais je pense que ça, c'est un paradigme qui change. En fait, c'est... Ça, c'est un autre questionnement qui est très présent pour moi, de dire comme, est-ce qu'on a besoin de tout ça, au final? Mm-hmm. Quand j'ai fait ce retour à l'ébénisterie, une des choses qui est très présente en moi, c'est cette idée de dire comme, je peux avoir des outils, même si à l'apocalypse ou peu importe quoi, c'est comme, c'est des compétences qui vont m'être utiles. Je peux me fabriquer un abri, je peux... C'est comme, c'est des compétences qui sont quand même très basiques et très utiles. Donc ça, c'est quelque chose qui a été présent dans ma réflexion. J'ai très envie d'apprendre à construire des maisons prochainement, puis d'avoir quelque chose qui est très proche, au final, d'un mode de vie simple. Parce que je parlais de la forêt, puis j'aime peut-être pas le raccourci que je fais de dire comme soit t'es un ermite dans la forêt, ou...
Il y a beaucoup de comme... modèles entre les deux.
Il y a énormément de modèles entre les deux, puis c'est comme... Ouais. C'est peut-être entretenir un cliché qu'il faut peut-être détruire un petit peu. Et il y a vraiment cette question de dire comme l'ordinateur, etc., c'est bien pour un modèle de gens en ville qui ont cette conscience d'être dans un bouillonnement avec des gens. Pour avoir fait beaucoup de travail personnel, il y a de moins en moins besoin d'avoir beaucoup de gens. Puis je vais être très bien avec un cercle d'amis plus restreint, avec qui il y a un degré de connexion et puis de support qui est vraiment élevé. Puis donc c'est pas nécessairement tant une question d'être un ermite dans la forêt que de savoir créer cette communauté-là. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut se créer en ville. C'est pas, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'on est dans cette gros élan de bouillonnement. Mais c'est quelque chose qui a sa communauté. C'est quelque chose qui se crée là où on est. Cette idée de, comme, j'ai beaucoup d'amis qui entretiennent ce rêve et qui ont souvent ce discours de dire comme, j'aimerais tellement ça vivre dans une communauté en nature. Mais c'est comme la communauté, elle est là aujourd'hui, elle est là où on vit. Il faut juste prendre le temps de la créer et de la nourrir. C'est un travail que chacun doit faire. Donc moi, aujourd'hui, je me sens comme je fais partie d'une communauté à Montréal. Puis j'ai décidé de devenir un acteur de cette communauté-là. Je ne veux pas être passif et dire comme je serai parfait moi le jour où je vais aller en nature, puis que je vais enfin pouvoir avoir l'environnement juste pour pouvoir faire en sorte que je vais pouvoir me comporter de la bonne façon. Non, c'est comme, il y a une sorte de passivité là-dedans, il y a une sorte de déresponsabilisation. Moi, je préfère comme me dire, comme aujourd'hui, je suis en ville, c'est probable que je parte en nature un jour, ou pas, on verra. C'est comme, mais ce qui m'importe plus, c'est comme la qualité de la communauté. Parce qu'au final, c'est comme, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune, puis... Ça a été ma conclusion quand je suis revenu à Montréal après peut-être 2 ans sur la route. L'endroit n'est important que par les gens qui y sont. Moi, ça m'a beaucoup fatigué d'être tout le temps dans des nouveaux endroits, avec des nouvelles personnes, avec des relations qui ne durent pas, qui n'ont pas nécessairement de profondeur du coup, parce que c'est comme elles sont très éphémères. Puis je préfère avoir un endroit, puis c'est du travail honnêtement de créer ces liens, puis de créer ces amitiés, puis de créer des... un environnement de qualité pour que moi je puisse m'épanouir. Donc c'est plus ça en fait pour moi le travail que la dichotomie de dire soit je suis en ville puis j'ai des ordinateurs, soit je suis en nature puis j'ai une petite hache puis je coupe mon bois. C'est comme, je pense que c'est, pour moi en tout cas, je le vois plus comme est-ce que je peux créer une communauté et un écosystème qui fonctionne.
J'essaie de le vivre à l'échelle, tu sais, de dire au lieu d'aller dans une grosse épicerie, de loader mon auto, que je vais encore chez Costco avec ma mère, là, c'est comme une activité familiale, on va chez Costco, mais tu sais, pour le reste de mes achats, on essaie quand on a l'option d'aller, on est à côté du marché Jean Talon, ou d'aller dans des commerces individuels. Puis j'ai réalisé comment il y a des bénéfices qu'on oublie. Tu sais, le fait de faire l'effort de marcher, puis à la longue, c'est plus tant un effort, parce que ça fait aussi du bien vraiment marcher, là. Mais d'arriver au commerce, puis de connaître la personne, puis que cette personne-là connaît ses fournisseurs, puis t'explique l'histoire du produit, puis que quand tu y vas, on va chez Pascal Le Boucher, lui, ça, il racontait que ça a pris 2 ans à faire son carnet de fournisseurs parce qu'il essaie d'aller chercher des gens qui font de l'agriculture responsable. Ben, ma soeur aussi y va, fait que là, le gars est comme « Hey, j'ai vu ta soeur, là, non, non, non. » Fait que là, tu sais, comme on se raconte, puis là, ma mère, elle m'achète un certificat cadeau à Noël, puis là, elle vient où il fait une journée où tous les producteurs sont là, tu peux les rencontrer, puis là, c'est comme ma mère qui rencontre mon boucher. Il y a quelque chose de... ce tissu social-là, j'avais pas réalisé au début à quel point c'est précieux, puis maintenant, j'aime ça, tu sais, puis comme... tu sais, pendant un moment, j'allais toujours acheter mes légumes à la même place. Monsieur Maccabé au marché d'Antalon, puis il me jasait, puis il me disait « Mets ça dans ton thé, ça va te faire du bien aux articulations. » Puis il me raconte plein d'affaires, puis ça fait 70, comme il y a 70 ans, je sais pas il y a quel âge, mais je pense qu'à 70 ans, son cadeau de fête, c'est qu'il allait visiter des fermes organiques en Amérique du Sud, genre. Puis là, j'étais comme « Il est tellement fascinant, puis ça, comme le geste, puis le mouvement contribue à une vie riche de cette façon-là, tu sais. Plus que, comme on revient au brûler des calories puis des abs. Il y a comme tout ce système-là qui se crée autour de nous, où la vie devient plus enrichissante.
Ouais.
Mais des bonnes...
Je regardais hier un documentaire sur Wim Hof. Puis l'acceptation de... Le confort dans l'inconfort. Puis c'est comme quelque chose qui me parle beaucoup. Donc c'est d'accepter un petit peu d'inconfort puis d'être confortable dedans. Puis ça fait... C'est super simple, en fait. Comme il est en train de démocratiser quelque chose, je pense, qui est très important. C'est d'accepter le fait que comme c'est tout à fait correct d'être inconfortable. Puis ça devrait être comme placardé partout. Avec les enfants, aux écoles, de dire comme... Le but, c'est pas d'être tout le temps confortable. C'est beaucoup plus important d'être confortable dans l'inconfort. Que selon moi, en tout cas. Donc c'est très libérateur au final, parce que c'est au début ça fait peur, puis quand ça se passe, ben c'est comme ok, j'ai survécu, tout va bien, j'ai pas besoin finalement de me protéger dans un petit nid de cocon, dans un petit cocon de coton, puis d'être tout emmitouflé, puis de me protéger de tout. C'est comme je vais survivre à l'inconfort.
Pour mettre en contexte les gens qui ne connaissent pas Wim Hof, lui, il démocratise un peu l'exposition au froid. Je ne sais pas comment il décrit lui-même.
C'est de la respiration, exposition au froid et comme visualisation et comme... Donc, tout ce qui a à voir avec mettre une intention. Puis de... Donc, c'est comme des expériences de respiration. Puis de tolérer l'inconfort, donc à travers l'exposition au froid, que ce soit de rester dehors quand il fait froid, ou alors de faire des bains glacés dans de l'eau aux alentours de zéro.
Parce que l'exposition, moi aussi, ça a été une grande réalisation. Lui, il m'a permis de plus aimer l'hiver. Parce que avant, c'était dès que je sortais dehors puis j'avais un peu froid, ça, je devenais comme irritée. Là. J'étais comme, oh, c'est tellement désagréable. Puis maintenant, au lieu même d'investir dans un gros manteau, à 1 000 $ qui survit à moins 40 pour pas que j'aie jamais froid. J'ai trouvé un manteau dans une friperie à 15$, en grosse laine canadienne. Puis maintenant, quand il fait froid, des fois même, je marche le manteau ouvert parce que je me dis, l'exposition au froid, c'est bon pour le système, puis ça te renforce. Tu sais. De s'exposer. C'est ça, c'est l'inconfort. C'est dans l'adversité qu'on développe nos capacités puis notre confiance. Hein. Fait que si on s'expose jamais à des trucs difficiles ou des fois, comme tu dis, juste inconfortable, on est moins en moins apte à faire quoi que ce soit. Puis ça a pris une tournure extrême avec les enfants, où maintenant, en santé publique, c'est un gros discours de dire, je sais pas si tu as vu ça passer, mais les parcs pour enfants puis les cours d'école sont rendus tellement sécuritaires qu'ils sont ennuyantes, mais aussi les enfants, ils savent plus rien faire, ils savent plus grimper. T'sais, si t'es intéressé par le mouvement naturel, c'est aussi, ça se rejoint, là. De dire, ce qui est dangereux, c'est pas de grimper aux arbres, c'est de pas savoir grimper à un arbre puis tu te donnes la gueule. C'est ça qui est dangereux, c'est de plus être capable de le faire, tu sais. Mais... Fait que, je pense que le temps passe, je vais juste checker là. On a fait notre heure et quart, mais peut-être que je suis quand même curieuse de, au niveau du mouvement naturel dans ta vie comme personnelle, là, c'était quelque chose qui t'intéressait. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu suis ou.
Je ne l'ai pas suivi, mais il m'a vraiment appris énormément. C'est Jérémy Fizet avec... Là, il a ouvert un nouveau centre qui s'appelle Ripley sur Saint-Denis, heureusement.
Oh, OK. Je ne savais pas.
Et, je vais noter. Si tu veux parler de mouvement, comme je pense que c'est la bonne personne. Puis après, c'est comme c'est de la danse. Moi, j'aime beaucoup danser.
OK. Que lui, il fait ou non?
Non, c'est ça, c'est avec quelqu'un d'autre.
Okay.
Je pourrais te mettre en contact avec une amie qui s'appelle Mel Siroy, puis qui a fait Inner Fire Dance.
OK.
Qui est... C'est ça, des superbes ateliers de danse. Donc ça, c'est comme, ouais, si tu veux, de mouvement. Comme j'aurai quelques personnes à
toi. Ah, avec plaisir. Moi, j'adore découvrir des nouvelles approches. Puis je savais pas que. Parce qu'au début, quand j'ai découvert le mouvement naturel, c'est mon frère qui m'avait présenté Mouvenat. Mm-hmm. Puis il y avait quelqu'un, là, ça fait comme plusieurs années, là, ça doit faire peut-être 6 ans, qui à Montréal avait fait un atelier Mouvenat. Puis on est allé sur le Mont-Royal. Tu connais-tu Mouvenat?
Ouais.
Mouvenat, je me disais que sûrement que.
Oui, il y a différents trucs qui existent. Il y a Mouvenat, toute la vague Ido Portal aussi. Là, ce que fait Jérémy Fizet, c'est son truc à lui, son système.
Il a comme son.
Mais il a comme énormément de connaissances. J'ai toujours adoré ses cours parce que ça change tout le temps.
OK.
Comme il a tellement de.
Ah, ça me tente. Parce qu'après cette expérience-là, on est allé sur Montréal, puis on avait justement les mouvements de base. Pour les gens qui ne connaissent pas, les mouvements naturels, c'est de dire qu'il faut recommencer à faire des mouvements qu'on faisait. Tu parlais tantôt des enfants qui rampaient, sautaient, lançaient. Je sais pas, il est agrippé, il y a comme toutes sortes d'affaires comme pour jouer, se défendre, se débrouiller. Puis on est allé sur Montréal, puis on lançait des roches. On attrapait des bâtons comme de plein façon. En tout cas, c'était juste, il y a quelque chose de vraiment ludique puis le fun.
Ça, c'est la chose la plus importante. C'est comme, en m'entraînant avec lui, c'est comme, j'ai jamais eu le sentiment de m'entraîner, comme on joue. Il y a quelque chose de... J'ai jamais eu autant de plaisir à... C'est pour ça qu'en fait, j'ai jamais été un gros fan du gym. C'est comme soit je fais des sports comme l'escalade, la slackline, puis c'est comme l'activité en tant que telle me plaît. Ou alors, si c'est un entraînement plus physique, il faut que ce soit très ludique et que ça se passe avec une exploration. Il amène aussi beaucoup de conscience sur comment est-ce que le corps bouge. Parce que c'est comme on peut vraiment vite bouger au-delà de nos propres capacités, puis faire plus de mal que de bien. Donc, de juste ralentir. Pour comprendre vraiment comment le corps fonctionne, comment le corps se positionne. Donc, j'ai beaucoup appris avec lui.
C'est ça que je note son nom, puis je l'invite. Mais je vais aller l'essayer aussi. Là.
Ouais.
Genre, ça m'interpelle beaucoup.
Mais j'ai pas encore essayé son nouveau centre. Fait que,
okay.
Ça fait pas très longtemps que c'est ouvert. C'était cette année, en 2010. Non. Donc, l'année passée, en 2019.
OK, parfait.
Puis,
je te redonnerai des nouvelles aussi, si j'essaie.
On pourrait aller ensemble.
Mais oui, on fera l'initiation. Les gens qui aimeraient te suivre, suivre les Gaspilleurs, c'est quoi le meilleur canal pour te rejoindre?
On a un site internet lesgaspilleurs.com, on a Facebook lesgaspilleurs, on a également un Instagram lesgaspilleurs. C'est, je dirais, les trois canaux principaux.
Ouais.
Et là, on est en train de travailler pour lancer un blog. On va créer du contenu justement pour partager des connaissances et aussi faire comme... Des articles sur le design un peu, puis comme juste expliquer un peu plus ce qu'on fait et également autonomiser les gens. Donc, on a toute une série d'articles qui s'en viennent. Donc, ça, c'est aussi une bonne manière de garder le contact avec nous.
Oui, c'est bon. Fait que dans le fond, les gens, ils peuvent retenir que s'ils ont un meuble usagé qu'ils veulent sauver, ils peuvent vous le confier ou le faire eux-mêmes aussi avec vous, puis apprendre.
Ouais.
Fait que toute la chaîne est possible.
C'est... Réparer votre meuble vous-même, donnez-le nous à réparer. On peut le réparer, le restaurer, le transformer, donc changer complètement son apparence ou sa fonction. Puis on peut vous accompagner pour que vous le fassiez vous-même.
Ouais. Si les gens veulent faire bouger leurs mains,
on
espère. Ouais. Mais merci encore pour ta présence, c'est vraiment intéressant.
Merci à toi. Passez une bonne journée.
Merci d'être avec nous.
Moi, c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra.
Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard.
C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus.
Venez nous rejoindre au renard.ca/club.
À bientôt!